Cette semaine, dans l'Olivret, nous nous trouvons à Saint-Laurent-des-Arbres. Je suis en compagnie de Marie-Cécile de Bessac. Bonjour.
Bonjour.
On se trouve chez vous, à la fois chez vous et au centre d'une résidence d'artistes. Nous sommes peut-être au dernier étage de cette résidence, dans une pièce rectangulaire, avec quelques éléments modernes et sinon le mur brut et quand même de l'isolation en toit, dans une pièce qui laisse de la place pour de l'expression.
Oui, voilà. Le principe, c'est de fournir aux artistes un espace qui est modulable, dont ils s'approprient. Les murs sont effectivement bruts, même l'isolant est brut pour l'instant, de telle manière à ce qu'ils se sentent suffisamment à l'aise pour ne pas avoir peur de tacher la moquette. Hein. et il y a dans chaque atelier des grands panneaux sur lesquels ils peuvent intervenir. Alors on peut voir par le masque sous la peinture blanche qu'il y a déjà plein d'interventions. Il y a 7 ans d'accrochage, de tentatives, de peinture. C'est passé par toutes les couleurs. Mais ça permet d'offrir aux artistes des tentatives d'accrochage, des expérimentations, en plus d'avoir l'espace et les outils pour travailler. Donc chaque plateforme est toujours organisée avec un endroit pour travailler, qui est plutôt grand, où on dispose des meubles qui sont, enfin des plateaux de travail qui sont sur tréteaux de telle manière à ce qu'on puisse tout enlever ou rajouter. Alors aujourd'hui, vous avez pas mal d'intrus qui sont des œuvres en attente de deuxième séjour des artistes. plus ça va, plus j'en ai. Et il y a ensuite un espace salle de bain pour la commodité.
Oui.
Et puis au-dessus de la salle de bain, une mezzanine avec un espace. Alors dans celui-ci, c'est assez drôle parce que ça ressemble plus à une cabane qu'à une chambre pour dormir.
D'accord.
Ce qui fait que, en plus de l'espace commun qu'on a vu hier, on a des endroits qui sont bien faits pour que l'artiste puisse se retrouver dans le repli et la concentration de son travail et de son intimité aussi.
Donc là, au moment où on est ensemble, il n'y a pas d'artiste dans cet espace, mais il y a plusieurs espaces comme ça.
Il y a trois ateliers en plus de l'atelier commun et en plus de l'atelier de production qui est en rez-de-chaussée, en rez-de-place et semi-enterré de l'autre côté. Donc ce qui reste au frais, c'est très agréable pour travailler.
Ça c'est sûr. Et donc là, il y a un artiste qui va arriver prochainement prendre...
Demain pour une nuit, puis après on part tous à Pont-Saint-Esprit.
Que qu'est-ce qui va se passer à Pont-Saint-Esprit ?
À Pont-Saint-Esprit, nous avons un mois d'occupation artistique. On vient inoculer le virus de l'art contemporain. C'est une tentative, c'est expérimental. Les artistes dormiront sur place. Alors, pas dans le prieuré Saint-Pierre, mais...
Qu'est-ce qu'on leur a trouvé comme lieu pour dormir ?
Ils ont le foyer des travailleurs, je crois, ça s'appelle,
D'accord. De
Pont-Saint-Esprit. C'est la commune qui le met à disposition du groupe. Et donc, tous les jours, ils seront à l'œuvre au centre de la ville.
Donc, on invite les auditeurs à s'y rendre. Qu'est-ce qu'ils vont voir ? Des acrobates, des peintres, des danseurs ? Qu'est-ce que vous aurez comme artistes ?
Alors, nous, on est plutôt dans les arts plastiques, les arts visuels. On a parfois des collaborations, oui, avec des musiciens ou des danseurs, mais ce n'est pas le cœur de notre métier. Le cœur de notre métier, c'est plutôt les artistes qu'on appelle plasticiens. Donc aujourd'hui, artistes plasticiens, ça regroupe un peu tout. Ça a des performeurs, des peintres, des graveurs, des installations, des sculpteurs. Et très souvent, chaque artiste a plusieurs palettes à son arc ou plusieurs flèches à son arc et exerce plusieurs choses. Moi, personnellement, je fais du dessin, de l'installation et de la vidéo, par exemple. Donc, il y aura des points de rencontre tous les samedis autour d'un moment convivial, un apéritif participatif, une soirée performative, une soirée de projection, à partir de 18h. Mais de toute manière, tous les jours, ça sera ouvert et vous pourrez entrer dans l'espace et voir les artistes en train de travailler.
Et à chaque fois, il y aura quelques... Ils seront combien ? 3, 4 ?
Alors, on a un protocole. On se donne une règle.
Ben oui, il en faut.
Donc, le protocole, on a 6 tentes qu'on va dresser dans l'espace du prieuré pour bien signifier qu'on est en refuge dans ce prieuré et que c'est un campement, un bivouac artistique qui va diffuser dans l'ensemble du quartier. Et il y aura à minima 6 artistes dans ces 6 tentes.
D'accord. Et là, les artistes vont pas rester nécessairement tout le mois. Ils veulent
Il va y avoir un relais.
un relais.
Un relais.
Comment c'est venu l'idée de venir à Pont-Saint-Esprit?
Alors, l'idée, ça vient de Pont-Saint-Esprit. Ça
Ah
vient de
bon?
l'équipe de Pont-Saint-Esprit qui est venue nous voir pendant les journées d'ateliers ouverts, les JAA,
Ouais.
qui est une journée nationale, et qui ont trouvé intéressant ce qui se passait dans ce laboratoire qui est une résidence artistique.
C'est vrai que c'est pas bien loin de Pont-Saint-Esprit, hein, Saint-Laurent-des-Arts, c'est une demi-heure à peu
Oui,
près.
une demi-heure, 40 minutes, selon le pédalo.
Donc là, ça va être la première fois qu'Échangeur 22 va venir à Pont-Saint-Esprit, mais ce genre d'opération, vous l'avez déjà fait ailleurs.
C'est pas la première fois qu'on vient à Pont-Saint-Esprit.
Ah bon?
Non, pendant 2 mois, alors avril-mai, on a eu ce qu'on appelle les pop-up, qui étaient un peu les teasers de ce qui va se passer au mois de juin.
D'accord.
Des artistes qui sont intervenus de façon très éphémère. Il y a eu un fontainier qui a...
Plutôt à la fin de l'Empire romain, donc essentiellement à partir des 4e et 5e siècles.
D'accord.
Et donc là, vous avez un repli urbain qui est extrêmement fort, puis vous avez une reprise démographique, et cette reprise démographique, elle est très forte, notamment au 12e et 13e siècle. Donc là, on a quasiment un maximum urbain au début du... un maximum de population, d'ailleurs, hein, début du 14e siècle, dans les années 1320 à peu près. Et ensuite, vous avez bien sûr ce grand choc démographique qui est la peste, qui arrive en 1347-1348.
Donc la révolte des Tuchins vient après cette période de la peste.
Oui, tout à fait. Donc voilà, cette peste de 1347-1348, on estime qu'elle tue à peu près un tiers de la population européenne. Ce qui est quand même tout à fait considérable. Donc là, vous avez un effondrement démographique qui est très fort. Mais les Tuchins n'y sont pour rien.
Non, 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 ils sont pour rien. Mais alors, les Tuchins, est-ce qu'il y en a qui étaient espions dans les états généraux, qui avaient leurs entrées, ou est-ce qu'ils avaient des comptes rendus des états généraux pour réagir? Comment ça marchait?
Alors, non, c'est quelque chose de beaucoup plus informel. C'est-à-dire que les Tuchins n'ont pas accès directement à ces états généraux.
Bah oui.
Bon. En revanche, ils peuvent, eux, connaître des gens qui connaissent eux-mêmes des délégués aux États généraux. Donc je pense qu'il y a un certain nombre d'intermédiaires, en fait, entre les Tuchins et les délégués des États généraux.
Et alors, il y a eu des avancées dans tout ça? Est-ce qu'il y a des bonnes choses qui sont mises en place ou ça a été la foire pendant plusieurs dizaines d'années?
Alors non, pas pendant plusieurs dizaines d'années. La révolte des Tuchins, on la voit surgir à la fin de l'année 1381, automne 1381 à peu près. Et elle va durer grosso modo jusque juin 1383.
D'accord.
Ouais. Donc c'est quand même relativement long, hein, encore une fois, pour une révolte médiévale, ouais, c'est quand même assez long. Et en juin 1383, on voit qu'il y a une répression militaire très très forte qui est organisée, avec beaucoup de pendaisons, qui sont des pendaisons un peu voilà, expéditives. Et les derniers Tuchins qu'on repère, en fait, ils quittent la région et ils vont franchir le Rhône et passer en Provence, et on les retrouve ensuite au château des Baux de Provence, et on les voit notamment rentrer dans Arles à un moment en 1384, et puis on finit par perdre leurs traces voilà, un peu après 1384.
Bon, ils sont morts sûrement, ou ils se sont assagis quelque part, mais...
En fait, ben, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grosse partie, visiblement, des Tuchins revient à la vie civile. Hein, c'est-à-dire, ceux qui ont échappé à la répression, on les retrouve après, on arrive parfois miraculeusement à les suivre dans les documents, et on voit qu'ils se sont réinsérés, finalement, dans leur village d'origine, dans leur communauté d'origine. Et il y a une partie, visiblement, qui ne revient pas à la vie civile d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'ils suivent finalement la voie d'un certain mercenariat, ils se militarisent, et ensuite on les retrouve en Provence, parce qu'il y a une guerre civile en Provence à ce moment-là, en 1384.
D'accord, ils vont faire la guerre ailleurs.
Oui.